Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Je suis au bout de ma vie, les gars. Hola, j'espère que vous allez bien. Moi, ça pourrait aller mieux. Je suis, mais dans un dégoût. Je viens d'enregistrer un podcast pendant une heure. Une heure! Pour me rendre compte au final que ça avait enregistré que 22 secondes de ce que je disais. Je vais aller me faire un café. Je reviens et on va enchaîner direct. On va faire un épisode express. Vous savez quoi ? C'est pas grave. Je veux tenir mon engagement de sortir un épisode tous les lundis. Et si ça veut dire qu'aujourd'hui on va devoir improviser un truc parce que je suis au bord du mental breakdown et que c'est pas grave. Laissez-moi aller me faire un petit café en deux-deux. Je reviens. Ah, on est déjà mieux. J'ai mon petit... Il se fout de ma gueule derrière. Can you please stop? Oh, j'y crois pas. Bon, du coup, qu'on reprenne un petit peu tout. Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez bien votre semaine. Je suis désolée. Mon but, c'est vraiment de publier le podcast tous les lundis matin, mais tôt, tu vois. Le publier vers 7h du matin, comme ça, dès le réveil, vous avez le podcast quand vous êtes en route pour le taf, en route pour les cours, peu importe où vous allez, si vous êtes tranquille dans votre salon en train de prendre votre petit-déj, je veux que vous puissiez l'écouter dès le matin. Mais c'est pas grave, écoutez, on est un peu en retard aujourd'hui, j'espère que vous avez passé votre meilleur week-end. Moi, personnellement, c'était plutôt pas mal. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si vous ne le faites pas encore, @desvibrations, voilà, je vous laisse, allez-y. Mais je suis partie pendant 24 heures, wow, toute seule, je suis partie toute seule parce que je me suis rendu compte qu'à la dernière fois, je me suis pris une claque en fait, je me suis dit mais meuf, ça fait 3 ans que t'as pas fait un truc toute seule. Et là vous allez vous dire mais tu te fous de notre gueule, tu passes ta vie à nous dire que t'adores passer du temps seule, que tu fais tout le temps des trucs seuls et machin. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis une grosse mytho, les gars. Je mens parce que certes, je suis seule, entre guillemets, mais ce que j'appelle être seule, en fait, c'est être chez moi et chez moi dans une pièce. Être dans une pièce seule, alors que mon mec, il est dans le salon à côté en train de regarder un film ou peu importe ce qu'il fait, il est quand même dans la maison, tu vois. Et dans tous les cas, même si je suis seule, je me rends compte que c'est juste quand je dis que j'aime passer du temps seule, c'est que j'aime passer du temps seule chez moi dans ma zone de confort. Mais je ne fais pas grand-chose seule, à part aller promener mon chien de temps en temps sur la plage. La dernière fois que j'ai fait vraiment un truc seule, que je suis partie quelque part en week-end ou quoi que ce soit, c'était il y a 3 ans quand j'ai commencé à voyager et que du coup je suis arrivée seule ici en Asie. Et ça m'a inspirée, je me suis dit, bon déjà je vais booker un petit week-end, donc j'étais sur Booking. J'ai booké dans un endroit qui, attention ne vous foutez pas de ma gueule s'il vous plaît, à 1 heure de chez moi. Certes, c'est pas très loin, mais vous vous attendiez à quoi ? Je vais pas prendre le premier avion et partir à l'autre bout du monde comme ça pendant un mois. Non, c'était pas le plan, tu vois. Le plan, c'était juste... C'est d'y aller petit à petit, le plan. Peut-être que ça va me motiver pour faire plus de trucs seuls et peut-être, pourquoi pas... Je me dis qu'en soi, un jour dans ma vie, je repartirai quelque part seul pendant 3 semaines, 1 mois, parce que c'est un challenge qui est pas mal, tu vois. Et puis ça me manque un peu. Mais on commence petit à petit... Et ce week-end, c'était juste prendre le taxi pendant 1 heure et partir, me mettre au bord de la mer, et c'était trop bien. De toute façon, j'ai filmé une vidéo, donc elle arrivera sûrement mercredi. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit épisode de podcast. On va le faire express du coup, parce que je viens de passer 1 heure à vous parler de ce que je vais vous parler maintenant. Je suis fatiguée, mon cerveau est épuisé. Mais je vais vous donner tous mes tips sur voyager, sur comment voyager seul, si c'est un truc que vous voulez faire, ce que j'ai appris, les choses à faire, les choses à ne pas faire, les choses à éviter. Et voilà. Alors, on va d'abord revenir rapidement sur mon passé et sur mes expériences. Alors, il faut savoir que, je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur le podcast, mais que j'ai grandi avec des parents voyageurs. Genre, mes parents, avant de m'avoir, c'était des grands voyageurs. Ils ont fait le tour du monde. Ils venaient de passer 6 mois en Inde avant de m'avoir. D'ailleurs, d'où mon prénom, Devi, qui est indien. Mais du coup, ouais, mes parents, ils ont toujours voyagé. Et quand je suis née, autant vous dire que ça ne les a pas arrêtés. Hein. Ils se sont pas dit genre on a un gosse, on va se poser. Non, ils m'ont foutu dans un sac à dos, littéralement, hein, mon faire-part de naissance. J'aimerais tellement, si je pouvais vous montrer une photo, il est ridicule. C'est genre moi, ma vieille tête de bébé, parce qu'il faut pas croire que tous les bébés sont mignons. Et malheureusement, moi je faisais partie de la catégorie de bébés, genre... Désolée maman, je sais que tu m'aimes et que tu me trouvais trop belle, mais c'est à mourir de rire. Genre, ils ont fait un montage de moi dans un sac à dos. Et c'est quoi déjà? Ils ont fait un peu comme un billet d'avion. C'était genre poids de départ, 1 kilo, je sais plus combien, heure d'arrivée. Enfin, trop drôle. Franchement, le faire part de naissance, trop drôle. Mais du coup, j'étais destinée à voyager. Et je vous épargne la signification de mon prénom entier, parce que mon prénom entier n'est pas que Davy, voilà. Pour les vrais savent mon prénom entier, mais c'est pas que Davy, et il a une signification assez drôle, et t'as l'impression que mes parents ils avaient fumé un petit buzz, hein, avant de choisir ce prénom, mais je leur en veux pas, mais au final j'étais destinée à voyager en quelque sorte. Mais du coup voilà, dès petite j'ai commencé à voyager. J'ai passé les 3 premières années de ma vie d'ailleurs au Portugal, pour ceux qui savent pas, parce que je suis moitié portugaise, ma maman est portugaise d'ailleurs. Bonne fête maman, je sais que c'était hier, mais je sais que t'écoutes ce podcast, donc je t'aime, t'es la plus belle du monde, bonne fête. Mais du coup voilà, 3 premières années de ma vie au Portugal, d'ailleurs du coup les premiers mots qui sont sortis de ma bouche étaient portugais, et je parlais couramment portugais quand j'étais petite. Malheureusement, en grandissant, j'ai arrêté de pratiquer et je comprends majoritairement, franchement. Genre, quand ma famille parle, quand ma mère me parle, etc., je comprends. Juste, j'avoue que mon niveau parlé, il est un peu éclaté au sol. Et chaque début d'année, dans mes bonnes résolutions, j'écris « apprendre le portugais ». Et chaque année, c'est un fail monumental. Mais un jour, je sens qu'il faut juste attendre le bon moment. Quand je serai prête, je vais me chauffer et j'irai faire un voyage au Brésil et j'apprendrai le portugais. T'as capté. Donc, quand j'étais petite, on a fait que voyager. Je me rappelle pas tout parce que, évidemment, j'étais petite. Donc, je sais qu'on a fait les États-Unis, Miami, New York, le Mexique. On a fait vraiment plein d'endroits dans le monde. Ensuite, on a eu mon petit frère. Pareil, mon petit frère ne les a absolument pas stoppés. Je sais pas comment ils faisaient, mes parents, d'ailleurs, avec 2 gosses en bas âge, pour faire le tour du monde et gérer les changements d'école et les machins et les trucs. Mais en tout cas, pour nous, je vais pas vous mentir, c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien. Il y avait des bons côtés, il y avait des bons et des mauvais côtés, comme dire au revoir aux copains à chaque fois à l'école et tout, c'était un petit peu voilà. Mais en soi, je me considère comme hyper privilégiée parce que, enfin, dès petite, j'ai été exposée à plein de cultures différentes, c'était juste trop trop bien. Et du coup, à l'âge de 10-11 ans, du coup, mes parents ont décidé ça faisait 6 mois ou 8 mois qu'on vivait en Martinique, et ils se sont dit, bon, ils vont arriver bientôt au collège. Enfin, moi, je rentrais au collège dans un an. Ils se sont dit, on va se poser quelque part. Du coup, on est tombé dans le sud de la France totalement au hasard. Genre, mes parents ont littéralement fait le jeu du doigt sur la carte. Genre, ils ont été sur Google, ils ont fait itinéraire au hasard et c'est tombé dans le Gard, dans le sud de la France. Je vous avoue que j'ai un petit peu le seum. J'aurais préféré que ça tombe, genre, j'en sais rien, moi, en Floride ou un endroit plus cool que le Gard. Mais non, je rigole. En vrai, le sud de la France, c'est un de mes endroits préférés dans le monde. C'est magnifique. On a des paysages de fou. Les gens sont à peu près gentils. Hein. Les Français, on est toujours un peu... On galère quand même à être gentil, mais ça va. Ça va plus ou moins. Donc, on s'est installé dans le Gard et on est resté là, du coup. Enfin, on n'a pas trop... On a arrêté de voyager, en fait, le temps qu'on fasse notre scolarité jusqu'à mes 18 ans, en fait. Mais du coup, depuis petite, c'est vrai que j'ai toujours eu cet objectif, je voulais être comme ma maman. Et vu que ma maman, à 18 ans, elle est partie de chez elle, elle a pris son indépendance, et elle est partie voyager et tout, moi, dans ma tête, je me disais, à 18 ans, je me casse, je pars voyager, et vous me verrez plus, et blablabla. Parle, Davy, parle. Arrive à 18 ans, que dalle, je n'avais pas un sou en poche. De quoi tu nous parles, partir voyager? Tu ne peux pas. Je me suis donc rendu compte, en grandissant, que c'était pas si simple que ça, hein, de partir voyager seule, qu'il fallait du courage déjà, parce que en grandissant, je me suis aussi rendu compte que j'étais pas si aventurière que ce que je le pensais, et que j'ai un petit peu peur de tout et n'importe quoi, que je suis toujours sur mes gardes, et que je suis juste une flippette, on va pas se mentir. Genre, je suis pas... Il y a 2 types de personnes dans la vie. Il y a les personnes qui peuvent éteindre les lumières de leur salon le soir et marcher tranquillement jusqu'à leur chambre, et il y a les gens comme moi qui éteignent les lumières et qui courent, qui tapent un sprint jusqu'à la chambre parce qu'ils se disent qu'il y a un monstre derrière qui s'apprête à sortir du placard et à les attraper, et t'as capté. Ben ça, c'est moi. Donc déjà, on avait ce petit désavantage-là de je flippe ma race un peu de partir de chez moi, et de 2, pour voyager, je vous apprends rien, il faut de l'argent. Et à 18 ans, je n'avais pas d'argent. Donc, c'est là pour la première fois que je me suis dit, bon Daisy, c'est bien beau tous ces projets que t'as et tout, mais il va falloir que tu commences à trouver un moyen de rentrer un petit peu de flouze, voilà, il faut que tu te bouges un peu le cul, quoi. Donc j'ai commencé à accepter tous les petits jobs possibles et imaginables. J'ai fait mascotte, hein, j'ai fait mascotte, je me suis déguisée et je suis allée distribuer des flyers dans la rue. J'ai distribué aussi des flyers le matin sur les pare-brises et c'était franchement un le taf le plus chill du monde. C'est là que j'ai découvert les podcasts également. Je mettais un casque sur les oreilles et je me tuais au podcast et je mettais... voilà, c'était moi la meuf chiante qui posait des flyers sur votre pare-brise. Je suis désolée. Et ensuite, babysitting, plein, enfin tout ce qui était possible que je fasse, j'étais là, je le faisais. Et du coup, je mettais de l'argent de côté, par-ci, par-là. J'ai aussi fait caissière, etc. Jusqu'à avoir assez d'argent pour me payer un billet d'avion. Et du coup, le premier voyage que j'ai fait seule, c'était un voyage à New York. Wow, Daisy, comment t'as fait pour partir à New York à 18 ans ? Je vous rassure rapidement, alors certes j'avais mis de l'argent de côté, mais pas assez pour me payer un Airbnb à New York toute seule, parce que ça coûte très cher, hein. Les États-Unis en général, dans tous les cas, ça coûte très cher. En fait, j'ai de la famille qui vit là-bas, j'ai de la chance d'avoir de la famille là-bas, et ils ont un appartement à New York, et c'était un été où justement ils partaient en vacances et ils avaient besoin de quelqu'un pour garder les animaux. Et donc moi, je me suis dit, logement gratuit, New York, promener un petit chien dans Central Park tous les jours, c'est mon taf, les gars. Je suis celle qu'il vous faut. Donc du coup, je vais chez ma tante et mon oncle et pendant un mois, j'ai eu la chance d'avoir du coup le logement gratuit et j'avais mis assez d'argent de côté pour me payer le billet et pour mes petites dépenses régulières, aller faire les courses, etc. Et c'était trop bien. C'était mon premier vrai voyage toute seule. La première fois que je prenais l'avion seule, que je devais me débrouiller et je me sentais genre on top of the world. Je me sentais, j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arrêter, tu vois. Je voyais déjà ma fast life, etc. Mais je me suis vite fait calmer quand le mois s'est terminé, que j'ai dû rentrer chez moi et qu'il n'y a pas de fast life en fait. Tu retournes en cours, t'es encore en première parce que t'as redoublé ta première et qu'il te reste encore 2 ans de lycée avant de pouvoir partir vivre ta fast life, Davy. Donc voilà, c'est littéralement ce qui s'est passé en fait. Je suis rentrée de ce mois à New York, mais c'est vrai que ça m'a vachement changée parce que c'est la première fois, je pense qu'on passe, enfin pour les gens qui ont voyagé seuls ou pour les gens qui vont peut-être voyager seuls, je vais vous spoiler un petit peu, mais la première fois qu'on se retrouve seul un peu genre loin dans un endroit qu'on connaît pas, qui nous est pas familier, qu'on connaît pas, on découvre plein de trucs sur soi-même. Genre, je me suis rendu compte que j'étais pas si peureuse que ça, que je pouvais faire plein de choses toute seule, que je pouvais me débrouiller toute seule et que j'étais pas si assistée que ça. Parce que c'est vrai que j'étais très très souvent en train de me dévaloriser, surtout quand j'avais 18 ans, j'étais encore en plein dans mon anorexie, j'allais pas très bien mentalement à cette période-là. Et c'est vrai que en plus de tout ça, j'avais vraiment tendance à me dévaloriser, à me dire que j'étais capable de rien, à tout le temps, voilà. Et là, le fait d'être loin de tout pendant ce mois-ci, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais capable de faire plein de choses toute seule. Et quand on est loin en fait de son environnement, quand t'es loin de tes potes, quand t'es loin de ta famille, quand t'es loin de ton copain ou ta copine ou peu importe les personnes qui vivent avec toi, tu es une autre personne. Genre t'es vraiment une autre personne. Parce que quand t'es dans cet environnement-là où t'as l'habitude d'être et que tu commences un peu à te percevoir de la façon dont les gens te perçoivent. Moi, depuis du coup petite, on me fait toujours des réflexions de « Non, mais de toute façon, des visites peureuses » ou des petites réflexions qui sont pas méchantes, mais les gens te voient d'une certaine façon. Et toi, du coup, tu vas te convaincre en fait que oui, t'es comme ça, tu vois. Oui, c'est moi. Je suis maladroite, je suis comme ça, je suis bordélique, je perds tout. Tu te perçois que tu es comme ça. Et c'est seulement quand tu te sors de cet environnement et que tu vas loin de tout ça que tu te rends compte que, en fait, non, ça va, je suis quand même assez organisée. J'arrive à voyager toute seule. J'arrive à aller d'un itinéraire à un autre sans me perdre. Je suis pas si catastrophique que ce que les gens me font croire que je suis, en fait. Et c'est là que j'ai eu la révélation et ça m'a encore plus... encouragée dans cet objectif que j'avais plus tard à me dire je veux partir voyager, je veux aller à l'étranger, je veux juste voyager en fait. Donc ces 2 années de lycée passent et j'arrive du coup à la fin de ma terminale et je pars directement faire des études dans la ville de Montpellier, donc j'ai mon premier appart toute seule, etc. Et je me rends vite compte, en fait, que ce style de vie que je mène... Bon, déjà, mes études ne me convenaient absolument pas, donc ça a été aussi un gros élément déclencheur. Mais je suis pas restée, en fait, longtemps dans cet appartement parce que je me suis aussi rendu compte que les dépenses que je faisais... Enfin, tout l'argent, en fait, que je mettais dans cet appartement, c'était de l'argent que j'aurais pu économiser. C'était évidemment de l'argent que mes parents m'avançaient. J'ai vraiment eu de la chance. Ça, c'est un privilège et je ne crache absolument pas dessus. Et je le dis, j'ai des parents qui m'ont vraiment soutenue et c'est eux qui m'ont aidée à financer mon premier appartement, qui m'ont aidée, en fait, dans ma vie d'étudiante. Sauf que je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était pas ça la vie que je voulais. Je faisais des études en nutrition. Et je me suis vite rendu compte que je voulais pas avoir un cabinet de nutritionniste, que je voulais pas devenir nutritionniste, que tout l'argent que mes parents me donnaient pour m'aider à financer cet appartement où j'étais même pas bien, en fait, j'aurais pu l'utiliser autrement et garder tout cet argent pour pouvoir me payer un voyage dans le futur et pour vraiment le dépenser d'une manière plus intelligente. Et donc je suis retournée m'installer chez mes parents, j'ai arrêté du coup ces études là. Et là, c'est vrai que je me suis vite rendu compte que, ok, c'est bien beau, t'as voulu tout arrêter, mais maintenant, tu fais quoi, en fait? Le seul objectif que t'as, là, maintenant, dans la tête, c'est que tu veux partir voyager, mais t'as pas de taf, t'as juste rien, t'es perdu, au secours, à l'aide. Si vous êtes dans cette situation-là, les gars, ne vous inquiétez pas, on passe tous pratiquement par là. Je dis pas qu'on passe tous par là, mais beaucoup d'entre nous passent par cette case où, ok, je sais pas quoi faire, en fait. Je sais pas quoi faire. J'ai plein d'objectifs, je suis motivée, mais je sais juste pas quoi faire, je sais pas où est ma place. Et dans ces cas-là, je vous conseille de prendre un maximum d'opportunités et de faire un maximum de choses. Moi, dès que je suis arrivée du coup chez mes parents, après mon déménagement, mon objectif principal, c'était de pouvoir être indépendante. Avant même de me dire je veux voyager, parce que on va être réaliste, tu peux pas partir voyager si t'es pas indépendante. À part si tu fais un Erasmus, qui est une très très bonne option pour voyager seule. Si t'as l'occasion, t'es étudiant et que t'as l'occasion de partir faire un Erasmus, que t'as des aides ou que t'as juste les moyens, ou je sais pas trop comment ça marche, parce que j'avoue que moi, c'est pas vraiment une option qui m'a été présentée, parce que mentalement j'étais pas très bien. J'avais aussi un copain à l'époque, j'ai eu ma première longue relation, je l'ai eu à 17 ans, donc j'avais pas forcément envie de me barrer et voilà. Mais si j'avais eu l'occasion de faire un Erasmus, les gars, je l'aurais fait, parce que je pense que c'est une façon géniale de partir, de découvrir une nouvelle culture, de rencontrer des gens, de te faire des contacts à l'étranger. Donc vraiment, si t'es étudiant et que tu m'écoutes et que tu peux le faire, fais-le. Mais je sais plus du coup de quoi, qu'est-ce que je racontais. Ah oui, voilà, je disais que il faut être réaliste avant de partir voyager. Il faut que tu aies une stabilité. Il faut que tu sois totalement indépendant. Je parle pour les personnes jeunes ou pas forcément jeunes. Je vous déconseille vraiment de partir quelque part avec juste ce qu'il faut. C'est faisable. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait. C'est faisable, mais c'est dangereux, les gars. On va juste mettre ça au clair. C'est que partir avec juste ce qu'il faut dans un pays à l'autre bout du monde où tu ne connais pas la culture, où tu ne connais pas les lois, où tu sais pas ce qui peut se passer. Ça se trouve, il peut se passer un accident, tu peux avoir besoin d'être rapatrié d'urgence dans ton pays, il peut se passer, j'en sais rien moi, un truc avec la justice, ou peu importe ce qui peut se passer, je pense que c'est le point de base, c'est d'avoir assez dans tes comptes et de partir et d'être confortable. D'être confortable et de te dire, s'il m'arrive un truc, je peux rentrer dans mon pays sans problème, j'ai de quoi m'en sortir et je suis pas genre au bord du précipice en mode ok, on vit au jour le jour, YOLO. C'est bien joli 5 secondes, mais c'est dangereux, les gars, surtout quand t'es seul. Encore quand t'es un groupe ou quoi, mais quand tu voyages seul, je pense que c'est la base. Donc, mon objectif, c'était ok. Bon, là, je sais pas où je vais, mais en tout cas, je sais que mon objectif, c'est de devenir indépendante financièrement pour pouvoir après faire mes trucs, faire mes voyages, vivre la vie de mon moodboard Pinterest. Et donc j'ai ni une ni deux fait mon CV. Je vous avoue que j'ai un petit peu étoffé mon CV, on l'a tous fait, vous inquiétez pas, mais voilà, j'ai écrit tout ce que j'ai fait, je l'ai un peu embelli, tu vois, j'ai un peu embelli, j'ai pas menti, j'ai juste un petit peu, voilà, étoffé mon CV et j'ai été le maître de partout. J'ai été le maître littéralement de partout et j'ai eu la chance de du coup avoir mon premier travail en tant que community manager dans la même boîte où dans laquelle mon copain travaillait. Je pense que ça a été un petit peu un coup de pouce et un coup de chance, hein, on va pas se mentir. Mais du coup voilà, j'ai été pris en tant que community manager à mi-temps et c'est vraiment le travail qui m'a appris le plus de choses. À chaque fois, je le dis, je fais la pub de ce travail, mais franchement, community manager, ça a été mon premier et dernier vrai taf dans une boîte avec un patron. Mais ça a été mon travail préféré parce que c'est là que j'ai tout appris. J'ai appris à faire du montage vidéo, j'ai appris à utiliser Photoshop. C'est un truc qui m'a servi parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des skills que j'utilise au quotidien dans le travail que je fais aujourd'hui. Et je peux faire tellement de choses et c'est tout grâce à ce travail. Mais du coup, j'ai commencé, grâce à ce travail, à pouvoir vraiment mettre de l'argent de côté pour le coup et à devenir indépendante. Alors, j'étais pas totalement indépendante puisque c'était quand même un travail à mi-temps, mais j'avais ce projet en tête de partir voyager, donc je mettais de l'argent de côté. Ensuite, j'ai commencé ma chaîne YouTube. À la base, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était pas du tout dans l'objectif d'en vivre, vous le savez déjà, mais c'est vrai que j'avais quand même cette idée en tête de me dire voilà le mode de vie que je veux. Je veux partir voyager, je veux me sentir libre et je veux être à mon compte. Il faut que ce que je fais aille dans ce sens, en fait. Si je commence à aller signer un CDI en tant qu'apprentie pâtissière dans la boulangerie de mon village, je dis n'importe quoi, les gars, j'ai pris le pire exemple de la terre. Jamais je serais capable de même faire un pain. J'ai essayé de cuisiner un pain le mois dernier. Je vous en ai même pas parlé parce que c'était un désastre, mais bref, je vais pas aller signer un CDI dans une boîte en sachant que mon objectif, mon ultime goal de vie à l'heure actuelle, c'est de partir voyager. Il faut que ton style de vie concorde avec tes objectifs. Et du coup, je suis restée à mi-temps dans ce travail. J'ai commencé ma chaîne YouTube et Dieu merci, après un an environ, ma chaîne a commencé à prendre un peu plus d'ampleur. Quand je dis un peu plus d'ampleur, c'est que j'ai atteint les 10 000 abonnés, ce qui était énorme. Je me rappelle le jour où j'ai eu mes 10 000 abonnés, les gars, j'étais comme une ouf. Mais voilà, j'ai eu mes premiers abonnés et ça commençait à prendre un petit peu. Et du coup, ça me motivait, on va pas se mentir, ça me motivait. Mais qu'on mette les choses au clair, j'ai pas gagné de l'argent avec mes réseaux avant bien 2 ans. 2 ans et demi de présence sur les réseaux, sur Instagram, etc. Je ne gagnais pas assez d'argent. Enfin, je gagnais des petites sommes qui me permettaient à la fin du mois d'avoir un petit truc que je pouvais mettre de côté justement pour mes futurs projets de voyage. Mais sinon, je ne pouvais pas vivre en fait de YouTube et de Instagram, etc. Pas encore. Mais bref, on va accélérer un petit peu. 1 an se passe. Je m'installe entre-temps avec mon copain de l'époque. On a une maison, on loue une maison, on achète tous les meubles, on était posés et franchement, j'étais heureuse. En tout cas, j'avais tout pour être heureuse. J'étais dans une relation stable, saine, on était ensemble depuis super longtemps, j'avais une maison trop cool à la campagne, j'étais pas loin de mes parents, j'avais un travail qui me permettait d'à côté développer mes projets personnels, ma chaîne YouTube, etc. J'étais bien, les gars. J'étais bien, mais tous les matins, je me réveillais avec une boule au ventre et je me disais juste que c'est... J'arrivais pas... En fait, je m'en voulais, je me détestais à cette période-là parce que je comprenais pas, en fait, pourquoi j'arrivais pas à être 100% heureuse. Je comprenais pas pourquoi, avec tout ce que j'avais, j'arrivais pas à être vraiment satisfaite et vraiment épanouie. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'est parce que j'avais laissé de côté, en fait, tous ces rêves et tous ces objectifs que j'avais personnellement pour moi, en fait. Parce que voyager, ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire. Et c'est vrai que en rentrant dans la vie adulte avec mon copain et tout ça, j'ai un petit peu laissé de côté parce que j'étais aussi avec quelqu'un qui n'avait pas les mêmes objectifs que moi. Et c'est totalement OK, hein. On n'a pas tous envie de partir voyager à l'autre bout du monde. Ça fait pas de nous quelqu'un de... Genre, c'est OK. Et je vais pas vous mentir, moi, aujourd'hui, maintenant que je suis posée ici, c'est pas non plus un truc... j'ai toujours envie de voyager, mais j'ai pas envie de... Je suis pas faite pour vivre dans mon sac à dos. Et ça, je m'en suis vite rendu compte. On en parle après, je suis en train de brûler les étapes. Mais peu importe, j'étais avec quelqu'un qui n'avait pas forcément cette envie, la même envie que moi de voyager. Et moi, je me suis dit, c'est pas grave. Écoute, tu fais un sacrifice, tu vas laisser cette partie de toi de côté, mais au moins, t'es bien, t'es confortable, t'es avec quelqu'un qui t'aime et voilà, tu vas forcément trouver aussi ton compte et être heureuse. Et sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Franchement, ça serait trop bien si notre bonheur pouvait dépendre d'une relation et d'une personne. Ça serait génial, tu trouves ta personne et d'un coup, genre, c'est ton bonheur et voilà. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. T'as beau être avec quelqu'un que t'aimes, si toi, au fond de toi, t'es pas épanoui et que tu n'es pas en accord avec tes objectifs à toi personnel, ça ne marchera pas. Il y aura forcément un moment où il y en a un des deux qui fera des sacrifices et il y en a un des deux qui sera juste pas heureux. Je dis pas que pour être en couple avec quelqu'un, il faut forcément avoir les mêmes envies, mais au moins la même vision. Au moins la même vision. Tu peux avoir des objectifs professionnels, des objectifs différents, mais au moins regarder dans le même sens, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça va bloquer. S'il y en a un des deux qui doit faire plus de sacrifices que l'autre, à la longue, en fait, ça va pas le faire, et il y a beau avoir l'amour le plus fort que tu veux, ça peut pas marcher. Donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, écoute, je vais faire un test, je vais partir voyager. Évidemment, j'ai proposé à la personne qui était avec moi de venir avec moi, ça ne s'est pas fait, et donc du coup, je me suis dit, je vais partir toute seule pendant un mois, c'est pas grand-chose, et avec ça, je vais peut-être pouvoir je vais voir en fait, ça se trouve, ça va pas me convenir, ça se trouve, j'en sais rien, mais il faut au moins que je le fasse pour que je sache en fait si c'est ça qui me manque ou pas. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Si vous me suiviez déjà à l'époque sur YouTube, vous avez vu du coup un peu cette phase-là de ma vie où je suis partie pendant un mois et ensuite je suis revenue et puis bref, ma vie a changé. Mais je suis partie du coup pendant ces un mois. J'avais évidemment mis assez d'argent de côté. J'avais l'argent pour me payer le billet et j'avais de quoi tenir pendant le mois. Il faut savoir aussi que Bali, c'est fou comme ça évolue. Hein. Mais Bali, il y a 3 ans, c'était pas le même prix que Bali aujourd'hui. Pour vous dire à la vitesse à laquelle ça va, c'est que je louais un petit appartement, enfin non, une petite chambre d'hôtel, pardon, une chambre d'hôtel dans un hôtel qui était vraiment à pied de la plage dans le centre, et ça me coûtait environ, je crois, 15 € la nuit, un truc comme ça, 15 € x 30, bon ça faisait quand même 450 €, mais franchement 450 € pour un mois à Bali, en sachant qu'aussi la nourriture, franchement, tu peux t'en sortir vraiment pour pas cher si tu vas faire les courses au marché local ou si tu manges local tous les jours. Franchement, ça revient pas cher et je crois que j'avais pu m'en sortir à l'époque. Enfin, du coup, à l'époque, je dis à l'époque comme si c'était à 1000 ans, mais c'était pas si longtemps que ça, c'était à 3 ans. Mais je me souviens qu'à 3 ans, j'avais pu m'en sortir pour, je crois, 1500 €, un truc comme ça pour le mois avec mes shoppings, mes activités, etc. Et franchement, ça reste une somme, hein. On est d'accord, ça reste une somme, mais... avec l'année que j'ai venu de passer à économiser, et j'étais refaite, franchement c'était pas grand chose pour un mois seul à l'étranger. Et aujourd'hui, le même hôtel, je m'étouffe même, ça, voilà, je m'étouffe rien que d'y penser, laissez-moi prendre une gorgée de café. Le même hôtel, il vaut 50 balles la nuit maintenant. Genre, il s'est, en 3 ans, le truc, il a quadruplé de prix, voilà. C'est juste pour vous faire une idée. Et pareil pour le premier appart que j'ai eu quand je suis arrivée du coup à Bali, que je me suis vraiment installée pour le coup, les 6 premiers mois. Je louais, pareil, un petit appartement. C'était une chambre appartement dans une petite villa, avec un coloc d'ailleurs, trop cool ce coloc. Mais je payais l'endroit 240 € avec l'électricité, l'eau comprise, etc. pour par mois. Et cette même villa aujourd'hui, elle a genre triplé de prix. Enfin, attendez, peut-être pas triplé, je dis peut-être de la... Attendez, laissez-moi voir. 600. Aujourd'hui, c'est 600 €, hein, pour le même appartement, pour le même endroit, en 3 ans. Donc, les prix commencent à monter énormément. Et aujourd'hui, je pense vraiment, sincèrement, que d'ici 5 ans, Bali sera plus du tout une destination abordable. Peut-être toujours abordable niveau... bouffe, etc. Mais sans vous mentir, même les restaurants, même les cafés, les restaurants qui avant tu pouvais manger pour 5 € avec un dessert, un plat, une boisson, etc. Maintenant, quand tu veux vraiment te faire un bon resto à Bali, t'en as entre 6 et 10 €. Voilà, c'est pas non plus... Ça commence vraiment à augmenter. Ça reste toujours accessible aujourd'hui, mais bon, ça augmente. Et je sais plus pourquoi on parlait de ça. Mais je reviens du coup à ce que je racontais. Je suis partie un mois toute seule. Et ça a été un mois hyper intense parce que c'est différent en fait quand tu pars voyager pour une courte période de temps, même si un mois c'est quand même long, hein, mais quand tu pars, que tu sais qu'il y a une limite en fait de temps, tu veux profiter de tous les jours, tu veux rentabiliser ton investissement, tu veux que tous les jours tu veux t'en mettre plein la vue, tu veux rentrer chez toi et te dire j'ai passé le meilleur mois de ma vie les gars. Et du coup c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, des fois, je vais regarder mes anciennes vidéos parce que j'avais tout documenté sur ma chaîne YouTube, ça me fait trop rire, mais je passe du coup un mois génial. Je me rends compte que j'arrive à me débrouiller seule et je me rends compte de plein de choses. J'étais vraiment dans cette phase de je me sentais mature, genre, Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, j'étais dans cette phase de réflexion constante à me dire genre je suis en train de changer, je suis en train de grandir, genre insupportable un peu, insupportable, mais c'est mignon parce qu'en fait quand j'y repense, c'était vraiment une période pour le coup où j'étais en train de changer et je me rendais compte de plein de choses sur moi en fait, plein de parties de moi en fait que j'avais un petit peu laissées de côté justement pour fitter dans cette relation, pour être la copine entre guillemets que j'avais envie d'être, et plein de choses que je voulais faire que je m'empêchais de faire et que là du coup je me sentais libre de faire parce que c'était génial. T'arrives dans un endroit, personne te connaît, tu peux être la personne que tu veux être, personne te connaît, t'as pas de potes, t'as pas de famille pour te dire quoi faire, t'es juste dans un élément totalement inconnu et tu rencontres des nouvelles personnes et tu peux juste être vraiment toi. Et c'est une des meilleures sensations en fait. En plus de ça, tu sors de ta zone de confort et tu te sens juste, t'es fière de toi. Je sais pas comment l'expliquer, mais t'es fière de toi. Et si vous êtes encore dans l'hésitation de le faire et que vous vous dites j'aimerais bien un jour partir voyager seule, même si c'est qu'un mois, vous n'êtes pas obligé de faire un extrême comme moi et de tout plaquer, votre maison, et partir à l'autre bout du monde. J'ai été un petit peu dans l'extrême, c'est vrai. Mais franchement, si vous avez l'occasion rien que de le faire un mois, et même pas de partir, tu peux partir quelque part en Europe, tu peux partir dans une ville extérieure inconnue ou peu importe, franchement, fais-le. Fais-le parce que tu vas forcément en tirer du positif. Même s'il n'y a pas que des bons côtés, on va y arriver maintenant parce qu'il y a quand même eu, ça a été une épreuve très compliquée. Tu quittes pas comme ça une relation de 4 ans et tu quittes pas ta famille et tu pars pas au bout du monde comme ça en mode « Ok les gars, bisous, on se revoit dans 6 mois, hein, ciao !» Non, il y a eu de la mort, il y a eu des pleurs, il y a eu ce moment où je suis arrivée à Bali et je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je n'ai personne ici. J'ai gâché ma vie, j'ai tout plaqué, j'ai tout quitté. » Et maintenant, je suis là toute seule avec mon mouchoir dans ma chambre et je veux rentrer chez moi en fait. Il y a eu cette phase-là, Mais il fallait que j'écoute mon cœur. Ah, je me déteste quand je parle comme ça, oh mon Dieu. Mais pour de vrai, je suis rentrée du coup de ces un mois de vacances, entre guillemets, même si pour moi, c'était aussi un petit peu du travail parce que je faisais mes vidéos YouTube, MDR. J'avais des marques qui me payaient 50 balles pour une intégration YouTube. Sans commentaire, mais je rentre du coup de ce voyage et c'est là du coup que je me rends compte que oui en fait, c'est le truc qui me manque, que je suis pas épanouie dans la vie que je me suis créée, que j'ai 21 ans et que je vis la vie que je veux vivre quand j'aurai genre 30 ans. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge, rien du tout, c'est juste moi personnellement, je sais que, en fait je dis n'importe quoi, mais ce que je disais c'était juste que j'étais pas prête pour vivre cette vie, parce qu'en fait je sais même pas ce que je veux faire à 30 ans, je sais pas ce que je veux faire, j'ai aucune idée, tu me dis où est-ce que tu te vois dans 5 ans, aucune idée, je n'en sais rien, je veux pas y penser, ça me stresse, laissez-moi tranquille avec le futur, mais tout ce que je savais en fait était juste que la vie que j'étais en train de vivre à 21 ans, j'étais pas prête à la vivre, j'étais pas prête à investir dans une maison, j'étais pas prête à me poser, j'étais pas prête à garder le même taf pendant 5 ans ou 10 ans ou 30 ans ou peu importe, j'étais juste pas prête à me poser et mon objectif et mon rêve et mon envie pour l'instant c'était de partir voyager. Donc vous connaissez la suite de l'histoire, un mois c'est cool, je quitte du coup mon travail, j'avais de l'argent de côté, je le répète encore une fois, j'ai vraiment attendu d'être sécurisée avant de partir, ne partez pas du jour au lendemain, vraiment, je fais que le répéter, je sais, mais je veux pas que vous vous retrouviez au bout du monde sans argent, en mode, mais David, tu nous as dit de partir, solo, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, on se prépare avant de partir, hein, d'accord? Même si ça prend un an de se préparer, même si ça prend 2 ans, ça vaut le coup, mais prépare-toi. Choisis une destination aussi qui correspond à ton budget. Moi, j'ai commencé par l'Asie. Au final, mon objectif quand même à la base, hein, je vais vous le dire maintenant qu'on y est, mais mon objectif c'était de commencer par l'Asie, de faire un tour de l'Asie, de partir aux US, etc. et de faire un petit peu genre un long voyage, un road trip. Au final, pas du tout. J'ai commencé par Bali, j'ai terminé à Bali. Hein, ça fait 3 ans que je suis là, les gars. La meuf passait totalement à côté du plan. Elle a perdu son plan en cours de route, mais c'était juste que, comme je le disais tout à l'heure, je me suis juste rendu compte que j'aime bien, je suis une meuf qui aime bien la routine, j'aime bien me sentir chez moi, déjà que je suis pas, déjà de base je suis pas extravertie, Et je suis pas le genre de personne qui arrive dans un endroit et deux semaines après, je connais tout le monde et je tape la bise aux gens. Et non, il y a des personnes comme ça. Hein. Je connais moi-même des personnes qui sont arrivées ici là, il y a 2 mois et ils ont plus de contacts que moi après 3 ans. Genre, ils connaissent toute l'île. La dernière fois, je suis sortie avec une copine qui est là depuis genre 2 mois et on était dans une soirée et elle disait bonjour à tout le monde. Elle connaissait genre Pierre, Paul, Jacques, le patron de la boîte, tout le monde et la meuf, elle est là depuis 2 mois. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Je mets du temps à m'adapter. Donc, c'est vrai que je me suis vite rendu compte que d'être un globe-trotteur et d'avoir mon sac à dos et de vivre dans mon sac et de partir toutes les 2 semaines dans un nouvel endroit, c'était juste pas vraiment pour moi et que je préférais me poser quelque part et de ce point-là, faire des petits voyages et revenir là où je me sens bien plutôt que de partir un petit peu partout. Mais encore une fois, c'est un choix personnel. Et si votre préférence, c'est de partir et en sac à dos et de faire le tour de partout et rester 1 mois dans chaque endroit, good on you, fais-le, ça a l'air trop cool, mais c'est juste pas pour moi, en fait. On se perd un petit peu, je crois. Mais du coup, ouais, je suis arrivée à Bali. Du coup, je connaissais personne. Et les premiers mois ont été quand même compliqués parce que... C'est important pour moi juste de vous parler de mon expérience maintenant et de vous parler des choses cool et des choses un petit peu moins cool. Et ensuite, vous inquiétez pas, j'ai une liste là que j'ai écrite dans mon carnet avec tous mes tips et mes recommandations et tout ça que je vous dis juste après. Mais je voulais juste vous parler de cette phase-là parce que je pense qu'on l'a tous en fait. Quand on commence à voyager seul, on a tous ce moment. En fait, je m'étais un petit peu idéalisée l'expérience. Et ça, je pense que c'est humain et qu'on le fait tous. On est toujours... On a un événement qui arrive. Je parle pas forcément de voyage ou juste, voilà, tu sais que, j'en sais rien, tu pars en vacances quelque part ou tu vas à un événement ou peu importe, on se fait cette idée dans notre tête. On se dit, ça va être comme ça et je vais faire ci et je vais porter cette tenue et je vais faire ça. Et tu te fais tout un film, en fait. Et généralement, on aime bien embellir les choses dans notre tête. On embellit les choses et on a des expectations, des attentes. On a des attentes et très souvent, c'est pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. Des fois, ça peut être mieux, hein. Mais des fois, c'est pas aussi bien. Et ce qui arrive, c'est qu'on est déçu. On est déçu parce qu'on s'est fait tout ce truc dans notre tête et on se dit ça va être parfait. Mais sauf que c'est très rarement, en fait, parfait. Et moi, du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que je venais de passer 1 mois. 1 mois, encore une fois, à fond, où je faisais des trucs tous les jours, où j'étais vraiment dans cette optique... De vacances, d'explorer, de profiter de cette limite de temps que j'avais. Et là, j'arrive et j'ai 6 mois devant moi parce qu'à la base, quand je suis arrivée, j'avais pris qu'un visa de 6 mois en me disant, on va voir, ça se trouve, je vais passer 6 mois ici. Ensuite, je vais avoir envie de partir en Thaïlande ou je vais avoir envie de partir au Cambodge ou je sais pas ce que je vais faire. Mais à la base, c'était ça dans ma tête. Et quand je suis arrivée, en fait, j'avais pas cette même sensation parce que j'avais du temps devant moi. J'avais du temps devant moi et j'étais là pour le long terme. J'étais là pour le long terme et j'étais pas là en mode speed à vouloir faire 36 000 trucs. Et je m'étais fait toute cette idée de ma nouvelle vie en fait dans ma tête, et sauf que c'était pas comme ça dès le début. Je me suis pas faite directement 36 000 potes. Ou alors je me faisais des potes mais ils étaient en vacances. Et du coup, pendant une semaine, j'étais avec un groupe de personnes et ensuite ils repartaient dans leur pays ou quelque... Voilà, je... C'est un endroit qui a beaucoup de passages et donc très souvent tu fais des rencontres et les gens ils s'en vont ou ils restent pas autant de temps que toi ou peu importe, mais en tout cas ça a mis beaucoup plus de temps que ce que je le pensais. J'ai mis beaucoup plus de temps à... Je pensais vraiment que j'allais me sentir dans mon élément. Je me suis dit je vais mettre les pieds à l'aéroport et à partir de ce moment-là je serai dans mon élément, je serai dans ma zone, je vais pouvoir faire ce que je veux avec ma vie, je suis libre. Je peux recommencer à zéro, c'est trop bien. Et sauf que, non en fait, parce que t'as aussi tous ces souvenirs dans ta tête. Je me rappelle que dans l'avion, je chialais. Dans l'avion, en arrivant à Bali, je chialais. J'avais le blues de fou. Et je venais à peine de vivre ma séparation. Genre vraiment, ma séparation, elle était un jour avant que je parte. Genre un jour avant que je prenne l'avion, j'ai dit au revoir à mon ex, quoi. Et même si... la décision était prise dans ma tête, ça a quand même été quelque chose de hyper dur à vivre. Enfin, c'est une rupture d'une relation de 4 ans. Donc, bref, je m'étais fait tout ce film dans ma tête et quand je suis arrivée, c'était pas comme je l'imaginais. J'étais pas déçue, mais enfin si, en fait, j'étais juste pas bien et je me suis questionnée, je me suis dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision, en fait ? Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que le mieux, là, ce serait pas que juste je rentre chez moi et que j'arrête mes conneries. Et si vous êtes, enfin, je vous préviens que ça va arriver certainement si vous partez voyager, que vous allez avoir ce truc. Je crois que même ça a un nom, ça s'appelle le blues du voyageur, non ? Je sais plus, mais c'est quelque chose de normal. Et c'est normal de ressentir les émotions aussi fois 1000 quand t'es loin de tout le monde et que t'es encore plus quand t'es dans un endroit que tu connais pas. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est laissez-vous du temps. Genre vraiment, laissez-vous du temps, ça passera et après ça, ça va être trop cool. Après ça, ça va être trop cool et il faut surtout se dire que un déménagement et un changement de vie comme ça, ou voyager à l'étranger ou peu importe ce qui est votre objectif, quand tu voyages, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose et c'est pas ce qu'on voit sur Instagram, c'est la partie cool. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vous conseille, si votre objectif, c'est de partir dans un endroit sur le long terme, d'aller, j'en sais rien, dans un pays sur le long terme, de partir un mois en exploration avant pour vraiment vous faire votre idée à vous et pour voir si c'est un endroit qui vous conviendrait, parce que je ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur Instagram ou sur YouTube ou sur les réseaux en général, parce que c'est toujours du plus beau. C'est toujours le côté esthétique des choses et c'est toujours les... Mais ça n'a rien à voir en vrai. Ça n'a rien à voir en vrai et c'est toujours mieux de venir et de vraiment te faire ton idée à toi avant de tout claquer et de partir comme ça en mode je quitte mon job et je me casse. D'ailleurs, en parlant de travail rapidement avant que je commence mes tips, mais ça aussi je voulais le dire, c'est que c'est pas fait pour tout le monde de travailler à son compte et d'être auto-entrepreneur et de juste, voilà, de travailler pour soi-même, c'est pas fait pour tout le monde. Et il n'y a absolument rien de mal à kiffer avoir un travail dans une boîte avec un patron, avec des collègues, avec des gens que tu vois tous les jours. C'est au contraire, moi j'ai plein de potes, hein, j'ai plein de potes en France qui vivent, enfin plein de potes, j'ai pas plein de potes, vous le savez, qui j'essaie de mytho là, mais j'ai des potes, oui, qui travaillent dans des boîtes depuis genre 5 ans maintenant et qui ont des collègues et qui ont un patron et qui kiffent leur vie et qui kiffent leur taf et c'est ce qui les rend heureux et c'est ce qui les rend épanouis. Et si c'est le cas, mais c'est très très bien. Et même avec un taf comme ça, il y a aussi des possibilités de te faire muter, de partir voyager. Encore une fois, je ne suis pas très bien renseignée à ce niveau-là parce que, ben, comme je vous ai dit, moi, dès le début, dès mon premier contrat dans une boîte comme ça, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi et que dans tous les cas, je voulais travailler à mon compte. Mais travailler à son compte, c'est certes une liberté et ça peut te permettre de faire plein de choses et t'es pas limité et voilà, mais c'est pas facile tous les jours et surtout c'est très j'allais pas dire pas instable, mais tout dépend de toi en fait, tout dépend de ta motivation. T'as pas quelqu'un derrière toi pour te pousser, tu vois pas des gens tous les jours. Le matin tu te réveilles, t'es seul, tu travailles seul à ton bureau, c'est pas quelque chose, tout dépend. Je sais que par exemple si j'habitais à Paris, je serais beaucoup moins seule parce que peut-être qu'il y aurait plus de personnes qui font la même chose que moi, je serais sûrement dans une agence, je verrais peut-être des gens plus souvent, etc. Mais là, le choix que j'ai fait de partir voyager et d'être à mon compte, c'est aussi à prendre en compte, c'est que bah, t'as pas du tout ce côté professionnel et t'as beaucoup moins d'opportunités, tu vois beaucoup moins de gens, tu fais beaucoup moins de contacts, etc. Et ça, c'est un truc à vraiment prendre en compte. Bon, cette parenthèse est fermée. Maintenant, on va rentrer dans le juicy. Non, il n'y a rien de juicy là, de ce que je vais raconter. Qu'est-ce que... Ouh, ce café me monte un peu à la tête. Mais, du coup, mes petits tips pour voyager seul. C'est comme ça que j'ai intitulé la page. Alors, je vais me focus sur la gente féminine parce que je suis moi-même une femme et que j'ai mon expérience en tant que femme. Et on va pas se mentir, une expérience de femme qui voyage seule et une expérience d'homme qui voyage seul, elle est totalement différente. Totalement différente. On est encore au Moyen-Âge, dans certains pays. Hein, voilà. Et c'est encore très dangereux pour une femme de voyager seule dans certains endroits. Et c'est pas facile tous les jours. Et j'en ai fait les frais même ce week-end. Vous le verrez dans mon vlog, que en tant que femme, t'as toujours des petits inconvénients. Notamment les hommes qui ne comprennent pas que parfois une femme a juste envie d'être seule. Et qu'elle n'a pas envie qu'un homme vienne lui taper la discussion pendant qu'elle mange son petit-déj en train de lire son livre. Non, l'homme se dit, cette femme est seule, cette femme a besoin de moi. Elle a besoin que je vienne lui parler. Nous n'avons pas besoin de vous, messieurs. Voilà, vous êtes sympa, vous êtes gentil, 5 secondes, mais on n'a pas besoin de vous, on peut être forte, indépendante et voyager seule. Voilà, c'était juste un petit message qu'il fallait que je passe. Mais Je commence avec mon premier tips. C'est pas du tout dans l'ordre, vous allez voir, j'ai absolument pas... Voilà, mais... D'ailleurs, je les répète parce que je les ai aussi racontés dans ma vidéo, mais on s'en tape. Du coup, premier point, c'est bien choisir sa destination, entre guillemets, safe. Alors, c'est hyper important de savoir que tu pars dans un endroit qui est OK en tant que femme, toute seule, parce que, bah oui, voilà, c'est la vérité. Il faut, j'aimerais bien ne pas avoir à dire ça et j'aimerais bien qu'on soit dans un monde où tu peux aller partout et être en sécurité, mais c'est pas le cas et il y a plein d'endroits encore qui ne sont pas très safe pour une femme toute seule. Et donc le but c'est que tu kiffes ton voyage et que tu te retrouves pas dans le coffre d'un camion où ça serait pas très sympa pour le coup. Donc moi j'ai pas non plus fait 36 000 destinations, donc je suis pas la meilleure conseillère à ce niveau là, mais en tout cas je trouve que les destinations que j'ai faites étaient plutôt safe, d'autres un petit peu moins. J'ai fait New York. Alors New York et les États-Unis en règle générale, on va faire un classement, je les mettrai où je vais donner une note. Je vais donner une note, tu te sens safe à 3.5 sur 5. Genre, c'est pas l'endroit où tu te sens le plus safe. Il faut vraiment savoir, surtout que les villes sont très grandes. Donc, tu peux avoir une ville qui est très safe dans certains quartiers, mais dans d'autres qui ne l'est absolument pas. Et ça, je l'ai ressenti à New York, je l'ai ressenti à Los Angeles, du coup, le mois dernier. Vraiment, c'est très vaste, c'est très grand. Et il y a beaucoup de gens, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des gens dangereux. Voilà, voilà. Je suis aussi une flippette, hein, donc peut-être que j'exagère un peu sur plein de choses, mais... je préfère être une flippette et être plus que prudente que l'inverse, mais c'est vrai que New York, moi, d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un épisode avec mes anecdotes de voyage parce qu'il m'arrivait tellement de choses. Mais je me rappelle qu'à New York, en plus, c'était à Halloween. Oh mon Dieu, l'angoisse. C'était à Halloween et il y a un mec qui m'a suivi dans la ville pendant genre une demi-heure. Et c'était le truc le plus flippant de ma vie. Genre le mec, je me tournais, il était dans le rayon du magasin où j'étais rentrée. Genre vraiment, un film d'horreur, le jour d'Halloween. En plus, c'était un vieux avec un chapeau et une canne. Genre vraiment, j'ai vraiment cru qu'on était en train de me pranker ce jour-là. Mais j'ai fini par lui crier dessus et partir en courant. Genre c'est littéralement ce qui s'est passé. Mais voilà, donc je dirais que New York, c'est assez safe quand même, parce que c'est une grande ville et t'as plein de quartiers qui sont... très 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 ok, mais il faut aussi savoir que généralement aux États-Unis, quand tu veux partir dans des endroits qui sont dans des quartiers qui sont sécurisés, c'est aussi beaucoup plus cher. Voilà, c'est beaucoup plus cher. Donc je conseillerais pas, si ton budget est assez modeste et que tu veux faire un voyage mais que t'as pas non plus un énorme budget, je conseillerais pas forcément de commencer avec les États-Unis, tout simplement pour cette raison que tu trouveras pas des prix abordables dans des quartiers qui sont plutôt bien réputés et qui sont sécurisés, parce que c'est juste comme ça en fait. Et donc je conseille pas de mettre en péril ta sécurité pour payer un truc moins cher, voilà, tout simplement. Mais ça reste quand même une très belle destination, et si t'as les moyens et que t'as économisé et que t'as une opportunité comme par exemple moi de garder les animaux de ma famille, voilà, c'était top, c'était cool, et je me suis régalée pendant un mois, c'était vraiment trop bien. Et j'y suis retournée d'ailleurs, j'avais oublié, j'y suis retournée quand j'avais 21 ans avec ma cousine, pareil, du coup, chez ma famille. C'était trop bien, mais je me rappelle que même elle, en fait, elle avait vraiment remarqué que le harcèlement de rue à New York, c'est en permanence. Genre, on a peut-être des expériences différentes, mais moi, je sais qu'avec ma cousine, c'était... On se sentait dans les rues de Paris, hein. Parce que Paris aussi, c'est des experts pour ça, mais les sifflements et les regards dans les décolletés et les trucs comme ça, genre, c'est très, 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 très lourd. Ce que, du coup, je n'ai absolument pas retrouvé en Asie, voilà. En Asie, j'ai pas forcément retrouvé ça, surtout ici, à Bali. Je vous avoue que tout ça, le catcalling, etc. Alors certes, on le retrouve quand même, et je me rends compte que c'est plus les touristes. Ici, à Bali, c'est plus les touristes, les Australiens, etc., qui vont être chiants et qui vont être lourds. Mais sinon, les locaux, en règle générale, je parle pas pour tous les locaux, parce qu'il y a des gens qui sont bien, des gens qui sont moins bien, mais vraiment, en général, ils sont beaucoup plus respectueux, ils sont beaucoup moins intrusifs, et c'est juste plus safe. En tout cas, il n'y a pas vraiment de moment où je me suis sentie pas safe ici. Certes, il y a quand même un petit peu de délinquance, il y a des choses qui se passent, je me suis fait arracher mon téléphone, je vous l'ai déjà raconté l'histoire, mais voilà, je me suis fait arracher mon téléphone. Il y a plein de petits trucs comme ça qui se passent, mais en règle générale, je me sens quand même, en tant que femme toute seule, quand j'ai voyagé ici, en Asie, en Indonésie, je me suis quand même sentie en sécurité. C'est aussi beaucoup plus petit et c'est beaucoup plus concentré du coup. Il y a beaucoup plus de monde en fait dans un petit endroit, donc tu te sens jamais vraiment seule. Il y a aussi des grosses communautés, des groupes Facebook, etc. Je vous skip les points, ça je le garde pour après, mais tu peux toujours être en contact avec des gens, etc. Et je trouve juste que c'est plus à échelle humaine en fait. Je trouve que pour un premier voyage seul, c'est bien de voyager dans un endroit qui est peut-être plus petit, mais je sais pas, c'est juste plus humain et tu te sens, au final, tu te sens beaucoup moins seul quand c'est plus petit et qu'il y a plus de monde. Et bref, je m'étale pour rien. Mais ouais, donc du coup, Bali, je le mettrais en position 1 des endroits que j'ai fait où je me suis sentie safe. En position juste en dessous de New York, je dirais le Cambodge. Le Cambodge, je suis pas partie seule, je suis partie avec ma famille, où j'arrive plus à parler. Je suis partie avec ma famille. Mais n'empêche que c'est un endroit incroyable, hein. C'est magnifique, le Cambodge, vraiment, rien à dire. Il y a 36 000 temples à visiter, la culture est géniale, la nourriture est très bonne, etc. Mais j'ai quand même senti ce truc de, c'est pas hyper, hyper, hyper safe pour une fille toute seule, surtout dans la ville principale. Alors après, c'est mon expérience personnelle, encore une fois, vraiment prenez-le avec des pincettes, parce que ça se trouve, il y a des gens qui sont partis au Cambodge seuls et qui se sont sentis très très bien. Vraiment, on a tous des expériences différentes, mais moi je me souviens que on marchait avec ma maman toute seule dans la ville, je crois que c'est Phnom Penh, j'arrive pas à le dire, la capitale quoi, du Cambodge, et je me suis pas senti super en sécurité. Voilà, je me suis juste pas senti super en sécurité, mais très bel endroit. Et encore une fois, je pense que c'est le genre d'endroit où t'as des endroits un peu safe et moins safe. Pareil pour la Thaïlande, génial comme endroit, mais je dirais plus que il faut bien choisir son endroit. Genre, je te conseillerais pas de Bangkok. C'est pareil en fait, c'est une grande ville. Et comme toutes les grandes villes, c'est un peu dans le même délire que j'ai dit pour les États-Unis, c'est que dans les grandes villes, tu peux vite tomber dans deux extrêmes. Les côtés un peu plus riches, où justement c'est plus safe, et les quartiers où c'est tout l'inverse. Et il faut vraiment bien se renseigner en avance et pas prendre le premier truc que tu vois sur Booking, parce que tu peux te retrouver dans un quartier sans forcément faire attention. Par exemple, je sais que quand on a été à Los Angeles le mois dernier avec Alaya, on regardait un petit peu et on a eu une sorte de Airbnb trop cool qui est apparu, et il était à Venice, voilà, Venice Beach. Et en fait, en faisant mes recherches, parce qu'on allait le booker, en faisant mes recherches, je me suis vite rendu compte qu'en fait, Venice Beach était un endroit les plus dangereux le soir. Voilà, le soir, c'est pas un endroit qui est hyper fréquentable et il vaut mieux éviter de rester là, surtout quand t'es, voilà, une meuf ou deux meufs toute seule. Donc, on s'est dirigé vers autre chose, mais voilà, toujours bien se renseigner, surtout quand tu vas dans des grandes villes comme ça. Sinon, la Thaïlande, en général, j'ai quand même trouvé que ça allait, hein. C'était plutôt safe, surtout sur les côtés où il y a la mer, où il y a la plage, il y a beaucoup de tourisme, etc. Et c'est quand même une belle destination. Et l'Asie, en général, encore une fois, tout dépend de où tu vas. Je trouve quand même que les gens sont très respectueux et qu'ils ont surtout l'habitude en fait d'avoir des touristes, et que t'as aussi beaucoup d'expatriés, tu rencontres beaucoup de gens en voyage, etc. Que tu retrouves un petit peu moins quand tu voyages en Europe ou aux États-Unis ou juste voilà. Donc, premier tips, c'était de bien choisir ton endroit, de choisir en fonction de ton budget et surtout de choisir en fonction de ta sécurité, de ne pas mettre ta vie en péril. Merci. Deuxième tips, choisir un emplacement proche de tout avec un accès simple. Je vous dis ça parce que moi, quand je suis arrivée ici la première fois, j'ai un petit peu pris mon truc au hasard, mon Airbnb, ma guest house, mon hôtel, je ne sais plus vraiment où je restais, mais tout ce que je me souviens, c'est que c'était hyper loin de tout, et que le matin je me suis réveillée avec ma motivation en me disant je vais marcher, je vais trouver un petit café et je vais voir des gens, et voilà, j'ai marché 20 minutes sous le cagnard au bord d'une route avant de trouver la première station essence. C'était même pas un magasin, c'était même pas un café, c'était une station essence où j'ai acheté des Oreos, parce que j'étais au bout de ma vie. Et j'ai, après ça, encore marché genre 15 minutes avant d'arriver à la ville, en fait. Voilà. Donc, pour question de pratique, pour question de tout ce que tu veux, trouver un endroit proche de tout. Parce que même pour faire des connaissances, etc., c'est beaucoup plus simple quand t'es, voilà, quand t'es proche de tout, c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, dans la continuité de ça, je vais ajouter un tip que j'avais complètement oublié de rajouter. Mais si tu veux voyager en Asie, je parle de l'Asie du coup, apprends à conduire un scooter avant d'arriver ici. Ne fais pas comme moi, n'apprends pas à conduire un scooter ici, parce que moi du coup je suis arrivée toute innocente, sans avoir mis les pieds, mes fesses même sur un scooter de ma vie. Pendant les 6 premiers mois, je n'ai absolument pas, ou 5 premiers mois, je n'ai absolument pas conduit. Un jour ça m'a chauffée, je me suis dit je vais apprendre, si tout le monde peut le faire, moi aussi je peux le faire. J'ai appris à faire du scooter et un mois après je me suis éclatée la gueule au sol. C'était pas drôle du tout, j'en parle là, mais j'ai cru clairement que j'allais perdre ma vie, voilà, c'était pas drôle, mais je me suis éclaté la gueule, et surtout que c'est hyper dangereux, parce que le trafic en Asie et le trafic en France, ça n'a absolument rien à voir, et c'est pas possible de marcher ici, voilà, donc il y a deux options, soit tu prends des taxis, ça s'appelle Gojek, enfin il y a des applications, c'est un petit peu dans le même style que Uber, mais c'est beaucoup moins cher. C'est genre 1 euro ou 2 euros quand tu veux aller d'un point A à un point B. Franchement, c'est pas cher du tout. Et du coup, c'est safe. Voilà, c'est safe. Tu peux le faire depuis ton téléphone. T'as ton chauffeur qui arrive et voilà. Mais c'est vrai que c'est mieux quand tu peux te déplacer avec ton propre scooter. Mais ce que je conseille, c'est parce que ça, on le voit beaucoup ici. Et c'est pas pour vous inquiéter ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'au plus il y a de touristes ici, au plus c'est dangereux sur la route. Parce qu'il y a plein de gens qui prennent la confiance, qui se disent « je peux conduire un scooter, c'est facile ». Et il y a des drames qui se passent, il y a des accidents. Là, avec Louis, enfin maintenant, ça devient une angoisse parce que dès qu'on se met à conduire et qu'on sort de chez nous, moi j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui nous fonce dedans. On voit toujours des gens, genre hier, on est sorti littéralement, j'ai vu un mec rentrer dans un autre mec. Enfin, genre si vous ne savez pas conduire un scooter, s'il vous plaît, prenez un taxi ou alors apprenez à faire du scooter avant de venir ici. Et je sais que c'est à peu près partout en Asie, c'est pas que à Bali, en Thaïlande aussi, il y a plein de gens en scooter, c'est vraiment le moyen de transport le plus répandu ici, c'est beaucoup plus simple, les routes sont beaucoup plus praticables en scooter aussi, donc voilà, si t'as la possibilité de le faire, fais-le. Troisième tip, j'en sais rien, toujours avoir une carte bancaire de secours, et c'est la professionnelle de la perte de carte bancaire qui vous parle, voilà. Je peux même pas vous dire combien de cartes bancaires j'ai perdu depuis que je suis ici. Et pareil, maman, je sais que t'écoutes et je sais que ça te fait un pincement au cœur et que tu me détestes. Mais vraiment, j'ai un don pour perdre les cartes bancaires. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein. J'ai quand même été vaccinée, je fais beaucoup plus attention. Mais je me souviens quand même de la première fois que je suis venue ici, j'avais qu'une carte bancaire, toute innocente. Je me suis dit, voilà. Et première ATM où je vais, que je retire de l'argent, j'oublie ma carte bancaire dans le distributeur. Et je me retrouve sans rien. Je me retrouve littéralement sans pote, sans personne pour m'avancer de l'argent, sans carte bancaire. Il me restait peut-être 20 euros en cash. Heureusement qu'on est en Indonésie et que j'ai pu survivre pendant 3 jours en attendant ma nouvelle carte. Mais je vous conseille quand même de prendre une autre carte bancaire de secours pour ne pas vous retrouver dans ma situation où t'es seul et t'es en mode « je fais quoi ? Je vais devoir boire l'eau du robinet qui n'est pas potable parce que je n'ai plus rien sur moi. » Quatrième tips, envoyer un message à un proche ou quelqu'un que tu connais pour lui dire où tu vas. Alors, tu vas me dire « mais à quoi ça sert, Daisy ? Ils sont à l'autre bout du monde, je suis seule dans un pays inconnu, on s'en fout. » Non, non, alors... Je sais que c'est chiant et je sais que là, vous allez vous dire genre arrête de faire ta daronne, arrête de faire... Oui, je sais que c'est chiant, mais c'est important les gars. C'est important qu'il y ait au moins une personne qui sache où tu es. Que au cas où, je touche du bois, il va rien t'arriver, mais que au cas où, si t'arrive un truc, que au moins tu aies dit à quelqu'un où tu étais censé être à tel jour ou à telle heure ou peu importe. Moi, je sais que ça, c'est un truc que j'ai toujours fait et... encore plus aujourd'hui, maintenant que j'ai des connaissances et maintenant que voilà, j'ai mon copain ou j'ai des potes, dès que je m'en vais quelque part, qui est un petit peu plus loin ou dans un endroit que j'ai pas l'habitude d'aller ou peu importe, que je vais explorer, toujours, 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 je mets au courant quelqu'un. Et je sais que c'est chiant, mais c'est juste important et c'est pour ta sécurité. Et surtout que ici, le réseau est une denrée rare. Pour trouver du réseau, quand tu pars quelque part, c'est une galère. Donc au moins, t'évites genre tous les appels manqués et les t'es où et les trucs... Tu dis à la personne, je vais là, j'aurai sûrement pas de réseau, t'inquiète pas, tout va bien, je suis en sécurité. Si je donne pas signe de vie dans 6 jours, commence à t'inquiéter, mais sinon, tout va bien. Ensuite, j'ai des tips sur faire des rencontres. Alors, comment tu fais pour faire des rencontres? Je suis pas, bon, vous savez que je suis pas la meilleure pour ce genre de conseils, mais quand même, j'ai quelques petits tips. Je dirais que le plus important, bon, déjà, c'est ne pas avoir peur d'aller dans des endroits où il y a d'autres personnes. Moi, au début, c'était un truc qui me faisait super peur. J'étais mal à l'aise. Je me disais, ok, je vais arriver dans ce bar. Je suis toute seule. Il y a déjà plein de gens qui ont déjà leurs potes. Et moi, je vais arriver comme une fleur en mode, coucou, est-ce que je peux m'incruster dans votre groupe? C'est malaisant. Mais je pense quand même que c'est une bonne façon de faire des rencontres. Généralement, t'as toujours une autre personne, soit qui est seule ou alors t'as un groupe de deux filles. Enfin, moi, je sais que ça m'arrivait souvent d'aller... Je le faisais pas forcément le soir, en fait. Je dis n'importe quoi. La plupart du temps, quand je faisais des rencontres, c'était la journée. Et ma technique favorite, c'était d'aller sur la plage. Et j'arrivais à repérer, en fait, les personnes de la même espèce que moi. Je voyais une petite meuf avec ses écouteurs, avec son petit tote bag et ses petites sandales. Et je me disais, ah, elle aussi, elle est comme moi. Elle est toute seule et peut-être qu'on pourrait devenir copines. Et du coup, je me poser discrètement à côté d'elle et généralement on commençait à parler, ou alors le mieux en fait c'est de faire un compliment à quelqu'un. Ça c'est aussi un truc que je faisais beaucoup. Je faisais un petit compliment genre ah, oh, j'adore tes cheveux, ou j'adore ça, ou... Et si la personne est ouverte au dialogue et qu'elle est dans la même optique que toi, ce qui est probable en voyage, tu fais plus facilement. Je sais que c'est assez, ça fait peur et que c'est assez impressionnant. Et tu te dis comment je vais me faire des potes. Mais généralement, tu te fais beaucoup plus facilement des potes en voyage. Parce qu'il y a plein de gens qui sont comme toi en fait. Que dans la ville où tu vis depuis des années. C'est totalement différent. Mais généralement, quand la personne elle est ouverte au dialogue, tu vas lui faire un compliment. Elle va te poser une question. Vous allez commencer à parler. Et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave. Tu auras fait un compliment à quelqu'un. Tu lui auras refait sa journée. Et puis la vie continue. Mais... vraiment, ne pas avoir peur de te rendre dans des endroits où tu es probable de rencontrer des gens. Si tu restes dans ta chambre d'hôtel toute la journée et que tu te demandes « mais pourquoi je ne me fais pas de potes ?», c'est tout simplement, enfin, t'as ta réponse, quoi. Et autre chose aussi, c'est d'avoir l'air ouvert. Enfin, moi, je sais que j'ai très... quand tu me vois toute seule, tu peux peut-être avoir tendance à penser que je veux pas qu'on me parle. Ce qui est très souvent vrai, en fait. Surtout en ce moment. J'avoue que des fois, je suis un peu dans ma zone et j'ai juste envie d'écouter mon podcast et de lire mon livre et de promener mon chien et d'être tranquille. Mais n'empêche que, si vous me croisez, parce que je sais qu'il y a quand même du monde là en ce moment à Bali, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir, je serai extrêmement heureuse. Je serai peut-être mal à l'aise et vous verrez que je suis un peu... bizarre socialement, mais vous inquiétez pas, je suis très contente de vous parler, très 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 heureuse, et c'est trop cool de vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou, à crier Paco et lui faire des câlins, il sera très content. Mais avoir l'air ouvert, et quand tu veux faire des rencontres, genre de te mettre dans une zone comme ça avec tes écouteurs et enfermé dans ton livre, et les gens vont pas forcément avoir pour réflexe de venir te parler. Alors que si t'es genre sur la plage, que tu fais pas forcément quelque chose, que t'as pas tes écouteurs, que tu souris aux gens et que t'as juste une attitude où t'es plus ouvert à faire des rencontres, ben évidemment ça reviendra plus facilement à toi. Et troisième chose aussi qui est pas très connue mais qui aide énormément, c'est les groupes Facebook. Des vies Facebook, ça n'existe plus. Facebook, il y a plus que des gens de 50 ans, genre Facebook n'est plus... Qu'est-ce que tu nous parles de Facebook? Mais non les gars, Facebook, quand tu voyages, c'est le meilleur outil de la Terre, je vous jure. Il y a 36 000 groupes sur Facebook. T'as un groupe pour les questions sur la santé, t'as des groupes sur l'immobilier pour trouver des endroits où rester, t'as des groupes réservés que aux filles, t'as des groupes réservés aux mecs, t'as de tout et n'importe quoi. T'as des clubs lecture sur Facebook. Vraiment, quand tu voyages, c'est le meilleur endroit. Tu trouves tous les renseignements possibles et imaginables, même pour les renseignements de visa. En tout cas, si vous venez ici à Bali, il y a un groupe qui s'appelle Canggu Girls Community, je crois, et tu dois faire une demande pour y accéder. Mais c'est un groupe, en fait, où t'as que des meufs. T'as que des meufs. Et moi, je sais que dès que j'ai besoin d'un truc ou d'un renseignement, ou voilà, je poste là-dessus. Il y a des filles qui vendent leurs fringues de seconde main dessus. Il y a des filles, des fois, qui postent des messages en mode « Je viens d'arriver, j'ai personne, est-ce que quelqu'un veut aller boire un café ?» Il y a vraiment... de tout, et tu peux très facilement faire des rencontres en fait dans ces groupes là. Et généralement, quand tu mets un message pour demander à quelqu'un s'il veut aller boire un café,
ou faire quelque chose, ou faire une activité, ou partir explorer une cascade, ou peu importe, généralement, t'as toujours des gens qui vont te répondre, et t'as toujours des gens qui vont avoir envie de faire des choses et de te rencontrer. Et encore une fois, il faut faire les choses, genre, tout en étant safe, genre, lui donne pas rendez-vous dans un coin paumé où vous allez être que tous les deux. On sait jamais, hein, ça se trouve, Julie, c'est Gérard derrière l'ordinateur. On ne sait pas, mais franchement, moi, je sais que Facebook, ça m'a permis de faire plein de rencontres. C'est là où j'ai trouvé tous mes logements, je les ai trouvés sur Facebook. Même sur les réseaux, mes potes, la plupart des gens que je me suis... mes potes, en fait, je les ai d'abord rencontrés, entre guillemets, sur Instagram. Genre, Alaya, on a commencé à se parler sur Instagram, par exemple. Enfin, vraiment, on a les réseaux aujourd'hui et je trouve que c'est un super moyen de faire des rencontres, de se faire des potes. Et franchement, ne sous-estimez pas Facebook parce qu'il y a trop de groupes. Il y a trop de... C'est un monde parallèle qu'on ignore, mais qui est riche en informations. Voilà. Ensuite, je vais essayer de faire rapidement parce que je vous avais dit un mini-épisode et on est déjà à une heure d'enregistrement. Donc, on va se dépêcher. J'avais écrit se renseigner sur les moyens de transport, mais ça, j'en ai parlé. Du coup, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. C'est scooter ou rien, ou voiture. Mais voiture, je ne conseille pas. C'est long, c'est chiant, c'est galère à conduire ici. Mais ouais, tout dépend de la destination où tu vas, de toujours te renseigner sur les moyens de transport. Parce que moi, c'est vrai que bah, là, le mois dernier, on est parti à Los Angeles et j'ai pas du tout... C'est vrai que ça a été la dernière des choses sur laquelle, enfin, à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, on va aux États-Unis, à Los Angeles, c'est forcément simple de se déplacer dans la ville. Mais en fait, que nenni, c'était très compliqué. Il fallait louer une voiture. Louer une voiture, ça coûte super cher. Je ne sais pas conduire aux États-Unis. Je n'ai jamais conduit aux États-Unis. Du coup, on a dû payer des Uber H24. Ça nous a coûté une blinde. Donc vraiment, renseignez-vous bien à l'avance, peu importe là où vous allez, de juste savoir comment vous allez vous déplacer. C'est la base. Et ça vous fait gagner du temps quand vous arrivez parce que sinon, c'est une galère et ça coûte cher. Et voilà. Ensuite, j'ai écrit « Tenir un carnet de voyage ». Moi, bon ça j'avoue que c'est pas vraiment un tip, c'est plus un truc que j'ai rajouté parce que c'est un truc que moi j'aurais kiffé faire. Mais franchement, je veux dire que mon carnet de voyage, du coup, pour le coup, c'est ma chaîne YouTube. Mais je vous conseille vraiment, même si vous n'avez pas envie de faire une chaîne YouTube ou peu importe, de au moins tenir un petit carnet de voyage ou alors de faire des vidéos pour vous et de juste garder des souvenirs et de documenter en fait tout ce qui se passe dans votre vie parce que c'est tellement cool de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé. Surtout quand t'es seule, généralement t'as 36 000 trucs à dire parce que tu peux pas vraiment, t'as personne avec qui débrief le soir quand tu rentres chez toi. Et moi c'est, bah, du coup je faisais beaucoup de journaling, donc j'ai des carnets qui sont remplis de moi, qui racontent ma vie, de ce qui s'est passé. Et tu vois, un peu comme les journaux intimes d'idoles qu'on avait à l'époque. Mais ouais, du coup c'est exactement ce que je faisais quand je suis arrivée et que j'ai commencé à voyager seule. Et je conseille de le faire parce que c'est trop bien de relire un peu plus tard et de te rendre compte à quel point tu évolues. C'est juste trop cool. Ensuite, j'ai écrit « Pour un petit voyage, faire un programme à l'avance ». Alors, quand tu fais un petit voyage, quand je dis petit voyage, c'est de 2 semaines à 1 mois. Quand c'est moins, je considère que c'est un micro voyage, tout dépend de là où tu pars, mais voilà, c'est des tout petits voyages. Mais quand ça de 2 semaines à 1 mois, je conseille vraiment de faire un plan à l'avance et de savoir exactement ce que tu veux faire. Peut-être pas de faire un programme de tous les jours de ton mois, de voilà, mais au moins de savoir les points les plus importants de ce que tu veux explorer et de faire tes recherches à l'avance sur Google. Je vais adresser ça ici parce que je veux froisser personne, mais je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de DM tous les jours de gens qui me disent « Est-ce que tu aurais des trucs à nous conseiller, des hôtels à aller à Bali? Est-ce que tu pourrais nous donner des tips pour ça, pour ça, pour ça ?» Les gars, je peux pas vous répondre parce que je ne suis pas TripAdvisor et si je commence à répondre à tout le monde et qu'à chaque fois je prends le temps d'écrire des trucs, je n'en finirai jamais. Je ne suis pas non plus un guide de voyage et vraiment, je vous assure que sur Google, vous trouvez de tout. Je suis absolument partant pour vous faire un petit guide de mes adresses favorites, de vous mettre toutes mes adresses favorites en story Insta ou de vous faire une vidéo pour vous en parler. Genre ça vraiment, je le ferai avec plaisir. Mais si je vous réponds pas à un DM personnel, ne le prenez pas mal du tout. C'est juste que je suis pas une agence de voyage et que vous avez vraiment... Il y a tout sur Google et c'est trop bien et tu peux faire une liste des choses que tu veux absolument, absolument visiter. Moi, là, rapidement, si vous voulez venir à Bali, je vous conseille de faire Canggu, Ubud, Uluwatu, Mundok, les îles Gili ou même si vous pouvez aller à Flores ou à Labuan Bajo, c'est incroyable. Vraiment, Flores, le plus bel endroit que j'ai fait de ma vie entière. C'était incroyable, on l'a fait pour notre anniversaire de nos 2 ans avec Louis. c'était génial. Mais Lovina, tout le nord de Bali, c'est incroyable. Bon, tous les endroits sont incroyables, mais c'est les endroits principaux que je vous conseille de visiter si vous êtes là pour un mois, parce que c'est des endroits qui sont concentrés en choses à faire. Il y a plein de trucs à faire ici, donc voilà, mes endroits favoris. Et pour un long voyage, je vous conseille de prendre votre temps et de pas faire comme moi. Où... En fait, quand je suis arrivée, j'avais toujours ce truc dans ma tête de me dire je vais faire 36 000 trucs. Sauf que ben non, en fait, t'as le temps, donc prends ton temps, fais-toi ta petite routine d'abord et ne rush pas tout comme ça à vouloir faire 36 000 trucs parce que tu vas vite t'épuiser et tu vas vite être en mode burn-out du voyageur. En mode, j'ai plus d'énergie pour rien faire. Prends les choses tranquilles comme elles viennent. Et généralement, quand tu restes longtemps dans un endroit, c'est trop bien parce que tu rencontres aussi les locaux. Et quand tu rencontres les locaux, c'est là que tu vois les plus belles choses et que tu découvres les plus beaux endroits. D'ailleurs, un autre tip que je vais rajouter à ma liste, rentrer en contact avec les locaux et juste se faire des potes locaux. Moi, ça, c'est un truc que je regrette de ne pas avoir fait plus tôt. Je vais pas vous mentir, on va être honnête à 100%. Quand je suis arrivée à Bali, c'est vrai que j'étais pas la plus... pas que j'étais pas ouverte à faire des rencontres ou à juste à me faire des potes locaux, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait, j'étais dans ma zone de confort à me dire je rencontrais des Français. Je rencontrais des gens qui parlaient français. Et j'avoue que mon anglais, il n'était pas encore hyper top, tu vois. J'étais un petit peu encore en galère pour faire des phrases et tout. Donc, c'est vrai qu'au début, je rencontrais quand même pas mal de Français. Et ça m'a un petit peu enfermée dans cette bulle, en fait. Dans cette bulle où je traînais qu'avec des gens comme moi, entre guillemets. Et du coup, je découvrais rien. J'apprenais rien, je découvrais rien. J'étais juste dans un endroit étranger avec des gens... familier, enfin des gens avec la même culture que moi, avec on venait du même endroit, enfin ça n'avait pas forcément de sens et je me suis vite secouée et je me suis dit je suis pas venue là pour ça et franchement j'ai passé mes 6 premiers mois du coup à pas vraiment m'intégrer entre guillemets et à pas vraiment me faire des potes locaux. Aujourd'hui 90% de mes potes sont indonésiens et c'est trop bien parce que comme je vous ai dit c'est là que tu découvres le plus de choses, que tu apprends sur la culture, que tu apprends la langue aussi. Je suis pas courante en indonésien mais je peux tenir une discussion, tu vois, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et surtout ils connaissent, c'est l'endroit où ils ont grandi en fait, c'est l'endroit où ils ont grandi, donc ils pourront toujours t'emmener dans les meilleurs endroits si t'as un problème aussi. Ils auront toujours les meilleures adresses, ils auront toujours les meilleurs contacts. C'est juste hyper, hyper important. Et c'est aussi respectueux. Je trouve que c'est hyper, hyper respectueux de t'intéresser à la culture et au peuple et ne pas avoir peur. Moi, je sais que c'était pas mal de l'intimidation, de l'appréhension, de pas réussir à communiquer correctement, à peu importe ce que c'était. Juste n'ayez pas peur parce qu'au contraire, en fait, pour eux, c'est génial et ils vont être les premiers à vouloir partager des choses avec vous et c'est tellement plus enrichissant, genre c'est tellement tellement plus enrichissant que de rester bloqué avec des gens en fait que tu pourrais simplement rencontrer en fait chez toi en France, ce qui ne t'arrête pas évidemment de faire des rencontres. J'ai plein de potes français, hein. Enfin plein de potes, à chaque fois je dis j'ai plein de potes, David tu n'as pas plein de potes, arrête de dire ça, j'ai des amis, des connaissances qui sont français, voilà c'est tout ce que je voulais dire. On va finir avec... Qu'est-ce qu'on va finir avec ? Ah oui, logement. Pour le logement. Pour les logements, je conseille différents logements pour différents types de voyages. Quand tu voyages seul pour une courte période, je conseille toujours soit Airbnb. Airbnb, c'est top parce que tu peux avoir un appartement avec une cuisine et quand tu veux cuisiner, enfin quand tu veux économiser un petit peu de budget et que tu peux te cuisiner des choses, c'est toujours top. Donc Airbnb, si ton budget est un peu plus élevé, tu peux prendre un hôtel. Les hôtels, franchement, c'est trop cool. Surtout quand c'est genre avec le petit-déj inclus, etc. Et t'as des trucs à côté. Moi, c'est ce que je faisais quand je déménageais. C'est ce que je faisais quand je voyageais seule au début. Je prenais tout le temps des petits hôtels comme ça. Sinon, en Indonésie, t'as pas mal de guest house. Guest house, c'est le plus abordable. Ça commence dans les 150€ par mois et ça va jusque dans les 200. Aujourd'hui, ça a un peu augmenté, mais voilà, c'est à peu près les prix d'une guest house. T'as une chambre qui t'est dédiée, t'as une cuisine partagée. C'est pas le confort absolu, mais franchement, quand t'as un petit budget, c'est aussi pas mal. Et ensuite, quand tu veux voyager sur le long terme, surtout, moi je parle d'ici, hein, à Bali pour le coup, parce que ailleurs, je suis pas restée à long terme dans d'autres endroits, mais en tout cas, je sais que ici, le plus avantageux au jour d'aujourd'hui, c'est, ça veut rien dire, je crois, au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus avantageux, c'est de signer des contrats sur le long terme. Si tu veux rester 6 mois ici et que tu trouves un endroit qui te convient, qui est bien placé et qui est bien. Je sais que c'est un peu chiant ici, mais c'est comme ça que ça marche. Quand tu veux réserver le logement sur 6 mois, il faut que tu payes les 6 mois à l'avance. Mais franchement, si tu peux le faire, fais-le, parce que aujourd'hui, c'est un cauchemar de trouver un logement à Bali. Moi, je suis bien contente que là, on ait notre maison signée pour 3 ans, parce que vraiment, en ce moment, les prix augmentent énormément. Tu vas commencer à louer un truc le mois prochain, ils vont doubler le prix, tu vas te faire virer. Enfin, en ce moment, l'immobilier augmente tellement ici que c'est une galère pas possible. Donc, si tu comptes rester sur le long terme et que tu trouves un endroit qui est pas mal, garde-le le plus longtemps que tu peux. Je crois que j'ai un colis qui vient d'arriver. J'ai reçu un colis trop cool. J'ai trop hâte de vous en parler. Je suis trop contente. Je vais en profiter du coup pour arrêter le podcast ici. Je crois que j'ai assez parlé. J'espère que j'aurai donné assez d'informations, assez de tips et que ça vous aura servi à quelque chose. Je vais finir quand même en disant que si t'es une femme et que tu voyages seule et que tu connais cette galère de tout le temps avoir quelqu'un qui vient te parler, surtout des mecs qui viennent te parler, tu peux toujours mytho et sortir le truc de « je suis là avec mon mec ». Genre moi, c'est tout le temps ce que je fais, même quand je suis seule. Genre là, ce week-end, tu vois, j'étais seule. Et évidemment, j'étais posée tranquille, en train de prendre le petit-déj. Et t'as ce mec qui a le triple de mon âge. Genre le mec avait des cheveux gris et qui commence à me taper la discute. Mais genre à me taper la discute, ça va 5 minutes. Je suis gentille, je veux bien te dire bonjour et te donner l'heure et tout ce que tu veux. Mais quand ça commence à être too much et que je veux être tranquille, quand il te pose la question, genre qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es là, eh ben tu réponds, mon copain il est en train de dormir dans la chambre, du coup moi je suis venue là, prends le petit-déj et voilà. Et généralement ça les stoppe net. Je sais que c'est triste d'en arriver à ce stade-là et de devoir, voilà, mais on va pas se mentir, ça nous arrive et c'est comme ça. Mais je ne perds pas espoir qu'un jour les hommes comprendront que une femme seule qui apprécie son temps, voilà, seule, n'est pas forcément un appel direct à une comment dire, on veut pas forcément vous parler, quoi, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vais donc vous laisser. J'espère que vous passerez une super bonne semaine. Je commence à dire n'importe quoi. Je commence à blackout. Ça fait 2 heures que j'enregistre. On va souffler un petit peu. Je vous fais des gros bisous. Mangez bien. Faites du sport si vous avez envie. Soyez heureux. Et on se revoit dans un prochain podcast la semaine prochaine. Bisous. Show me your soul. Baby, I'll show you mine. Show me.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.